touche. Bien, nous allons démarrer cette table ronde qui a pour thème Reines et Dragons et qui va vous présenter l'anthologie des Imaginales 2012, puisque chaque année, une anthologie est publiée, enfin depuis 4 ans en tout cas, en parallèle avec le Festival des Imaginales. Donc, nous allons co-présenter, puisque nous avons co-dirigé l'anthologie, Lionel Davoust et moi-même, nous allons co-présenter ce débat. Et nous avons autour de nous 5 auteurs qui ont donc participé à cette anthologie. En commençant par ma gauche, nous avons Chantal Robillard, qui est écrivain et poète, conteuse également, et qui a énormément travaillé sur le conte à travers notamment des romans par nouvelles, où elle prend des contes qu'elle détourne. Et elle fait aussi tout un travail sur les mots, sur les sonorités et sur l'oralité, puisqu'elle est conteuse. Hein, on peut citer quelques-unes de ses publications, Les Sept Fins de Blanche-Neige, La Fontaine aux Fées, Hôpital Cendrillon. Et dans l'anthologie, elle nous livre un texte qui s'intitule Le dit du Drégonjon et de son Elfrie. Nous avons ensuite Adrien Thomas, donc tout jeune auteur à qui nous avons demandé de rejoindre l'anthologie parce que nous avions remarqué son premier roman qui est paru l'année dernière, La Geste du Sixième Royaume, et on a eu envie de lui permettre de s'exprimer à nouveau, là cette fois-ci dans une forme plus courte, et il nous a livré un texte intitulé Ophéa. Ensuite, à ma droite, Mathieu Gabory. Auteur de SF, fantasy, bien connu, également rôliste à son époque, et qui a notamment travaillé sur les chroniques des crépusculaires, chroniques des féales, le cyclabime, pour le faire résonner. Alors peut-être pas toute la durée, parce que ça risque d'être long, mais juste un petit bout. Oui, alors il faudrait que tu réfléchisses jusqu'où tu t'arrêtes. Pour t'arrêter à un endroit un peu, mais qu'on entende le phrasé, puisqu'il y a tout un travail là-dessus. Ok ? Bien, alors je referme.
Oui, je peux lire la première page. Je m'arrête à Thion, c'est ville rebelle, dit quelqu'un.
Par exemple.
Suspense.
Oui, très bien.
On peut faire. Obligé de l'acheter pour savoir la suite. Exactement.
Oui, c'est ça.
C'est que ça, il l'achète, là. Qu'est-ce que ça marche ?
Oui,
oui. Oui, il marche bien.
On
est content, C'est bien.
Si notre contre-texte marchait aussi, ça serait génial.
Alors, je me souviens un peu, parce que je
t'ai dit
bonjour. Bonjour.
J'ai le bloc au cas où.
Vous connaissez
peut-être ? Prendre des notes.
Non, non.
Quentin Brouillard.
Oui, oui.
Et Adrien Thomas.
Thomas. C'est vous, Ophéa, c'est ça ?
C'est ça.
Oui. Ouais, c'est pareil, si tu l'as lu, tu me donneras ton avis.
Ah oui, oui.
Comment ?
Oui, si tu l'as lu en entier.
Oui, j'ai lu en entier.
J'en ai coché 3 ou 4.
J'ai lu en entier.
Ouais.
Tu vas bien ?
Ça va. Ça va mieux que le premier jour. Bien. Bon, bah, je pense qu'on va démarrer. Hein.
Yep, c'est parti.
C'est bon ?
Voilà.
Bien, nous allons démarrer cette table ronde qui a pour thème Reines et Dragons et qui va vous présenter l'anthologie des Imaginales 2012, puisque chaque année, une anthologie est publiée, enfin depuis 4 ans en tout cas, en parallèle avec le Festival des Imaginales. Nous allons co-présenter, puisque nous avons co-dirigé l'anthologie, Lionel Davoust et moi-même, nous allons co-présenter ce débat. Et nous avons autour de nous 5 auteurs qui ont donc participé à cette anthologie. En commençant par ma gauche, nous avons Chantal Robillard, qui est écrivain et poète, conteuse également, et qui a énormément travaillé sur le conte à travers notamment des romans par nouvelles, où elle prend des contes qu'elle détourne. Et elle fait aussi tout un travail sur les mots, sur les sonorités et sur l'oralité, puisqu'elle est conteuse. Hein, on peut citer quelques-unes de ses publications, Les Sept Fins de Blanche-Neige, La Fontaine aux Fées, Hôpital Cendrillon. Et dans l'anthologie, elle nous livre un texte qui s'intitule Le dit du Drégonjon et de son Elfrie. Nous avons ensuite Adrien Thomas, donc tout jeune auteur à qui nous avons demandé de rejoindre l'anthologie parce que nous avions remarqué son premier roman qui est paru l'année dernière, La Geste du Sixième Royaume, Et on a eu envie de lui permettre de s'exprimer à nouveau, là cette fois-ci dans une forme plus courte. Et il nous a livré un texte intitulé « Ophéa ». Ensuite, à ma droite, Mathieu Gabory. Donc, auteur de SF, fantasy, bien connu, également rôliste à son époque, et qui a notamment travaillé sur les chroniques des crépusculaires, chroniques des féales, le cycle abîme, qui avait marqué une petite pause dans l'écriture à un moment, et qui nous est revenu ensuite avec Chronique du soupir en 2011, et D'une rive à l'autre, paru en 2012 chez ActuSF. Ensuite, Anne Fakouri, auteure de fantastique, plutôt, bien qu'ayant commis des petites incursions sur, aux franges de la fantasy, qui a été révélée par notamment Le Clair Voyage. Nous avons eu ensuite La Brume des Jours et Narcogénèse, plus récemment. Mathieu, j'ai oublié de dire que tu nous avais livré le texte, intitulé « Under a Lilac Tree ». Et donc Anne a écrit le texte « Au cœur du dragon ». Et enfin Pierre Bordage, donc habitué du festival, avec son rond de serviette, ses chaussons et tout. que l'on ne présente plus, qui a écrit de nombreuses choses, mais qu'on va quand même présenter. Le cycle de Wang, les griots célestes, l'ange mineur, et plus récemment, la fraternité du Panka, avec 4 tomes, et le 5e tome, Frère Eltor, qui est paru tout récemment, et qui a rédigé le texte Morflamme. Ces auteurs... Avant de partir sur chacun de ces textes, on avait un petit peu envie avec Lionel d'expliquer un peu ce que c'est qu'une anthologie et comment on a travaillé. Donc Lionel, qu'est-ce que c'est qu'une anthologie et pourquoi l'Anto des Imaginales ?
Alors revenir un peu sur une anthologie, est-ce que ça marche ? Oui. Revenir un peu sur une anthologie, ça c'est pas forcément quelque chose qui est toujours connu du grand public. Donc une anthologie, tout simplement, c'est comme un recueil de nouvelles, mais au lieu d'avoir un seul auteur, c'est un recueil de nouvelles de plusieurs auteurs sur un seul et même thème, mais qui chacun apporte son univers, sa sensibilité, sa façon de traiter les choses, et qui donc va proposer autant d'éclairages différents sur ce même thème, et qui en plus va permettre au lecteur de découvrir de nouveaux auteurs vont peut-être avoir, c'est ce qu'on espère en tout cas, envie d'en savoir plus à leur sujet. Alors pourquoi une anto pour les Imaginales ? Eh bien, le projet a été démarré il y a maintenant 4 ans, puisque c'est la 4e année où ce projet se fait, par les éditions Mnemos en collaboration avec le festival Imaginal. Et les premières anthologies étaient dirigées par Stéphanie Nico, directrice du festival, qui a cette année décidé pour... varier un peu les visions, de proposer à d'autres anthologistes de reprendre le flambeau, donc Sylvie et moi en l'occurrence. Je pense que le projet de cette anthologie, tout simplement, c'est de... comme les Imaginales sont finalement peut-être un des plus grands, c'est le plus grand festival de fantasy en France et peut-être même en Europe, une des manifestations extrêmement majeures, eh bien, il paraissait logique et une bonne chose que ce festival ait son anthologie pour pouvoir justement montrer et célébrer la vitalité de la fantasy française et toute son étendue à travers les auteurs d'expérience comme les nouvelles générations d'antan. Et donc Sylvie, donc pour renvoyer la balle à ma camarade Sylvie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce thème en particulier, Reines et Dragons, puisque pour rappeler, les 3 précédents thèmes étaient Rois et Capitaines, Magiciennes et Sorciers la 2e année, puis Victimes et Bourreaux la 3e. Pourquoi ce thème ? Qu'est-ce qu'il cache ? Est-ce qu'un thème d'anthologie, c'est dirigiste ? Ou est-ce que... comment est-ce qu'un thème se vit quand on est anthologiste, avant qu'on parle de la façon dont les auteurs l'auront vécu ?
Alors, le thème Reines et Dragons, déjà, vous avez bien cru comprendre, en voyant les 3 titres précédents, Quelque chose et autre chose. La consigne, c'était d'avoir effectivement 2 archétypes que l'on va associer sur un titre. Donc, après les 3 titres précédents, que faire et dans quelle direction aller, on s'est dit avec Lionel qu'il était intéressant peut-être de... Aucun des archétypes du bestiaire de fantasy n'avait été évoqué, donc on s'est dit, on va un petit peu aller piocher là-dedans. Et évidemment, le premier animal qui nous est venu à l'esprit dans la fantasy, c'est le dragon, parce que c'est un des plus mythiques. le dragon dans tout ce qu'il représente, à travers la force, à travers cette espèce d'animal qui évoque des temps très anciens, où la magie était encore présente, qui est vraiment un thème très fort, très évocateur, un principe masculin à la fois, comme le disait fort bien Marie-Charlotte Delmas hier, c'est une créature qui crache le feu, mais qui vole aussi dans le ciel, qui a les pieds dans la terre, enfin, qui évoque un peu tous les éléments. Quel archétype finalement mettre en face ? On s'est dit le dragon, la force, la puissance, le masculin, on va essayer de mettre peut-être le féminin derrière, en face. Un personnage féminin, au départ on avait un peu pensé à la princesse, puisque dans le temps, ou à la vierge que l'on sacrifiait au dragon. Et puis finalement, on s'est dit, on va mettre une reine. Parce que la reine, ça peut être plein de choses. Ça peut être effectivement une reine plutôt fragile ou une reine forte, mais c'est un principe féminin. Et il nous a semblé qu'à travers ces deux archétypes, ça pouvait donner matière à réflexion aux auteurs. On a donc rédigé notre petit appel à texte avec des pistes et des suggestions. Mais en principe, un thème d'anthologie, ça ne doit pas être réducteur. Il faut que les anthologistes fassent en sorte que on n'avait pas envie d'obtenir 12 textes ou 15 textes qui traitent d'une vierge sacrifiée à un dragon. Il faut que chacun des auteurs puisse aller piocher dans son imaginaire et voir ce que lui va sortir sur ce thème. Et on constate d'ailleurs que l'ensemble des textes, il y a 12 textes. 12 textes, nous sommes... alors, il y a une reine et un dragon. Bague Grau, c'est ça? Je suis la reine. Appelez-moi Majesté. On a donc choisi aussi d'avoir 6 femmes et 6 hommes au sommaire, et des textes très très variés. Vous n'aviez même pas vu.
On dirait le gouvernement de François
Hollande. Exactement, on a fait la parité.
Une anthologie normale.
On a vraiment demandé aux auteurs d'essayer d'aller chercher. Donc, ces textes sont très différents. On a aussi, pour essayer d'avoir des choses intéressantes, on a eu envie d'aller chercher dans différents courants. Les anthos précédentes étaient plus sur une fantaisie un peu classique. Nous, on a décidé d'ouvrir un peu plus, puisque, par exemple, Chantal est partie plus sur la veine du conte. Anne est issue plus du courant fantastique. On a Vincent Gessler, qui est un auteur qui, lui, est plutôt du monde de la SF. Donc, c'était intéressant. Mélanie Fazi, qui est aussi du fantastique. Mathieu, qui souvent est un peu à la frange du surréalisme, ou en tout cas à des textes qui aussi nous emmènent sur d'autres directions de la fantasy. Donc voilà, on a eu l'envie de marier toutes ces choses-là et de voir ce que ça donnerait.
Vous voulez partir sur Chantal ?
Oui, c'est... Donc du coup, je vais partir, puisqu'on parlait de Chantal et du conte, puisque Chantal, c'est le texte qui ouvre l'anthologie. Justement, quelles sont les spécificités du conte par rapport au texte de fantasy habituel ? C'est un objet oral et pourquoi ce texte ?
Alors, je réponds sur pourquoi ce texte d'abord, si tu permets.
Tout à fait.
Pourquoi ce texte ? Parce que d'abord, j'ai fait 5 ans de paléographie et de diplomatique. Il m'en est resté des choses, et notamment des dits. J'ai étudié beaucoup de dits, ce sont des chroniques, si vous voulez, non pas des légendes, mais des histoires vraies qui ont été racontées par des chroniqueurs, des copistes, au fond avec leurs petites plumes. Voilà, j'avais le dit de la bataille d'Igor qui me revenait comme ça en arrière-plan, et je voyais pas trop comment le relier au dragon. J'avais envie quand même de rester dans le conte. Donc dans le conte, il n'y a pas tellement de dragons à ma connaissance, en tout cas dans le conte écrit, dans le conte classique. Chez Perrault, il n'y a pas de dragon à ma connaissance, Grimm non plus, enfin il y a d'autres monstres, mais il n'y a pas de dragon. Tout à coup, il y a deux choses qui me sont venues. D'une part, une sorte d'injonction comme ça, bon dragon, bon dragon, bon dragon. Je pensais à la ville de Mondragon. Donc bon dragon qui me revenait comme une incantation comme ça, ça c'était une chose, et par ailleurs l'idée de détourner, d'avoir un dragon qui soit bon et des reines pas forcément bonne, enfin méchante ou pas vraiment, ou alors qui aurait été sacrifiée, mais pas au dragon, pas par le dragon, mais par d'autres, et qui aurait été secourue par un ou des dragons. Donc c'était ça mon idée de départ. Et pour le relier au conte, alors ça m'est venu en l'écrivant. Tout à coup, j'ai vu un conte qui m'a toujours énervée quand j'étais gamine, Ricky à la houppe. Ricky à la houppe, pour ceux qui ne se souviendraient pas d'avoir été enfant et d'avoir lu Ricky à la houppe, c'est un conte où le personnage principal, qui est Ricky, en fait c'est le roi Henri 2, 3 ou 4, je ne sais plus lequel, mais c'est un personnage historique au départ, ce Ricky rencontre deux jeunes filles, je crois que c'est des princesses, mais j'en suis pas très sûre, une qui est bonne, une qui est plutôt belle, mais bête comme un panier, et l'autre qui est très intelligente, mais qui est assez laide. Et bien entendu, avec la misogynie de l'époque, le roi Riquet, qui possède le don d'offrir un don à la personne qu'il aime, va choisir la belle et la rendre intelligente, et pas la laide pour la rendre belle. Donc j'ai fait le contraire. J'ai eu envie comme ça dans leurre au pluriel successif. On a un premier dragon, mais c'est pas le bon. On a des personnages que j'ai appelés des elfries, bon, pas, que ça ne soit pas des elfes, qui sont des reines, mais qui ont été bien amochées, et qu'on espère voir s'en sortir. Et finalement, si on lit bien la dernière phrase, on ne sait pas si celle qui s'en sort est si bonne que ça. Bon, voilà, ça m'amusait, ce jeu de l'heure.
D'accord. Alors, est-ce que y a aussi tout un travail que tu fais sur l'oralité et puis les contraintes littéraires, puisque dans ce texte, tu as respecté des contraintes oulipiennes.
Oui. Alors, donc, j'ai... Ben oui, si je la dévoile... Je vais peut-être pas la dévoiler. Quand vous lirez l'anthologie, regardez les voyelles. Voilà. De toute façon, ça s'entend.
Oui.
Voilà. On entend qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et par ailleurs, j'ai croisé, parce que je croise toujours deux contraintes, c'est plus facile à faire et plus intéressant, bon, moins banal, on va dire. J'ai travaillé ce que je fais déjà en poésie. J'ai travaillé sur la suite de Fibonacci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les mathématiques, la suite de Fibonacci est une suite où chaque nombre est la somme des deux précédents. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Ça va jusqu'à l'infini. Je me suis arrêtée à 34 et je suis redescendue. Donc on a cette injonction, Drégonjon, viens nous secourir, qui ponctue la suite et qui s'éloigne au fur et à mesure que la suite avance, et ensuite on revient. Voilà. Mais on ne revient pas au point de départ, parce que la fin n'est pas le début.
Et alors justement, puisque c'est un texte qui est en plein dans l'oralité, pour donner à entendre, j'aimerais que tu puisses en lire un petit passage pour qu'on se rende compte, puisque c'est un texte qui se savoure vraiment à l'oral.
Alors je vais lire la première page. Le dit du dragon, excusez-moi, j'ai la voix un peu cassée, j'en suis à mon troisième débat d'aujourd'hui. Le dit du Drégonjon et de son elfrie. Drégonjon, Drégonjon, viens nous secourir. Le cri vient d'une mignonne elfrie menue. Drégonjon, Drégonjon, viens nous secourir. Une toute mince elfrie, rouge et perdue. Drégonjon, Drégonjon, viens nous secourir. S'enfle son cri. Douloureux, désespéré, du bruit sur les berges, des coups, hurlements. Drégonjon, Drégonjon, viens nous secourir. On nous tue ici, viens vite, dragon d'or. Le dragon, réveillé, se secoue, grogne, se lève, sommeil trop vite interrompu. Drégonjon, Drégonjon, viens nous secourir. Je viens, je vole, un peu de compréhension. Que me veut-on encore en pleine nuit, hein? Ont toujours besoin de moi, ces elfridés. Je suis le bon secours des demoiselles. Et l'inverse, et mes envies, mes besoins. Oh, Drégonjon, Drégonjon, viens nous secourir. Flou, flou. Il se pose un coup de vent violent. Lune rousse, lueur du crépuscule. Un monstre creuse le sol, profond, profond. Une butte de terre noire s'enfle. Serrées ensemble, deux reines elfries, trois jeunes princesses terrifiées qui hurlent leur peur démesurée du monstre de fer. « Tuons ces villes rebelles !» crie quelqu'un.
Voilà,
la suite au prochain numéro.
Alors, la suite, évidemment, à lire, puisqu'il se passe encore plein de choses.
Alors, nous avons parlé du conte, et maintenant j'aimerais me tourner vers Pierre Bordage, dont l'expert que Sylvie a présenté, mais dont l'expérience de publication est évidemment connue. Et si je ne m'abuse, Pierre, tu publies depuis 20 ans des romans, si je ne me trompe pas. Tu es également un habitué donc, du festival et surtout de ses anthologies, puisque tu as participé aux trois premières. Tout simplement, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment tu as ressenti ce thème par rapport au précédent, donc qui était Rois et Capitaines, Magiciennes et Sorciers, Victimes et Bourreaux. Comment ce thème-là t'a-t-il inspiré et quelle évolution également concernant le traitement de ces thèmes ?
Inspiré mal. alors, j'accepte de participer à l'anthologie du festival tous les ans, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'aime beaucoup le festival. Ensuite, parce que je ne fais pas de fantasy, j'ai très peu de livres de fantasy dans l'équipe, enfin, j'ai le classique en mineur, mais de la fantasy historique, donc dans un cadre particulier. Ensuite, parce que je ne fais pas beaucoup de nouvelles, disons que je ne fais pas naturellement de nouvelles, je ne suis pas un auteur de nouvelles naturelles, et que donc j'ai besoin d'être provoqué pour faire des nouvelles. Donc c'est une vidéo de provocation, donc on ne parle ni spécialiste de fantasy ni de nouvelles, que de faire des nouvelles de fantasy. Et puis, je fais comme d'habitude, quand on demande une nouvelle, j'attends le dernier moment, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais raconter. Donc, le dernier moment, c'est 3-4 mètres de Lionel, mais ils ont entendu Lionel. Je sens que le jour approche, il va falloir remettre cette nouvelle. Et donc, le grand jour arrive, et je suis un peu sec en général. J'ai déçu beaucoup Anne en disant que je me suis renseigné sur la symbolique du dragon, de la reine et tout ça. J'ai regardé un peu ce que c'était que le dragon dans les mythologies asiatiques, la différence entre les mythologies asiatiques et européennes, etc. J'ai regardé ce que c'était qu'une reine. En France, on n'a pas de reine. Ça n'existe pas. La loi salique nous interdit d'avoir des reines, donc on n'a jamais de reine. Quand je commence une nouvelle pour l'anthologie, une toute nouvelle en général, le matin, je sais que je dois avoir une nouvelle le lendemain ou en deux jours. J'attends la nouvelle. Et à un moment, ça part parce que ce travail de recherche que j'ai fait avant débouche sur quelque chose et d'un seul coup, ça part. Et pour moi, une nouvelle, ça doit être vraiment dans l'instantané. Je ne cherche pas à réfléchir, je coupe les cordes de l'intellect. Je ne produis ici, il n'y en a pas trop non plus. Et donc je pars dans l'écriture et je veux vraiment que ce soit une sorte de jet rapide. Si je passe plus de deux jours sans nouvelles, pour moi c'est quelque chose qui va pas. Donc vraiment ça dure deux jours maxi. Dragon, après je me suis rendu compte que j'avais retenu, mon inconscient avait retenu plus que le pouvoir de destruction, le pouvoir de régénération. Et c'est ce que j'essayais de travailler dans la... C'est-à-dire, c'est accepter le feu du dragon plutôt que lutter contre le feu du dragon. Et c'est ce que j'ai retenu pour la nouvelle. Et aussi, ce qui m'intéresse dans, en général, tous les écrits, c'est la métamorphose de quelqu'un. C'est-à-dire que le personnage qui part au début de l'histoire doit être changé à la fin de l'histoire. Et il se trouve que l'élément du changement, c'est le dragon. Et l'élément qui change, c'est la reine, qui part, qui est une femme très froide, qui a été mis sur le trône par son père et qui lui a recommandé d'être extrêmement violente et dure avec ses sujets et son environnement. Et quand plus elle devient dure avec son peuple, plus le dragon sévit. Voilà. Elle sait qu'un jour elle devra voir complètement. Pas l'étranger non plus. Elle part parce qu'elle sait qu'elle devra rencontrer le dragon. Mais qu'est-ce que rencontrer le dragon, sinon sa propre nature et sa propre métamorphose. C'est beau ce que tu dis.
C'est
absolument grandiose.
C'est excellent.
On a le droit d'applaudir. Oui,
on a le droit d'applaudir.
Clap, clap.
Alors, Anne lui fait bien de prendre le micro, justement, parce que toi, tu es auteur de fantastique, Et donc, comment un auteur de fantastique peut se glisser comme ça dans ce thème et dans cet univers de fantasy?
En fait, j'ai triché, mais c'est une jolie histoire. Je vais faire rougir un peu Lionel. Justement, hier, avec Lionel, on se disait que la littérature, c'était aussi des rencontres. Et avant de publier le clairvoyage, j'avais beaucoup écrit, mais rien envoyé, sauf un texte à un type qui s'appelait Lionel, qui s'appelle toujours Lionel Davous, qui à l'époque était rédacteur en chef d'Astodal, parce que j'adorais cette revue. Et, voilà. Et ce texte était à peu près l'histoire de Cœur du Dragon, c'est-à-dire une caste de grimpeurs dont le don de métier est d'aller chercher des pierres précieuses dans les excréments des dragons, dans leur nid. Au final, j'aime pas trop les dragons, donc j'en ai fait du bétail. Je suis pas rentrée du coup dans la symbolique. Non, mais je sais, je suis des sports. Et du coup, j'avais envoyé cette nouvelle et Lionel m'avait envoyé un mail très gentil en me disant que oui, le thème était bien, mais ça n'était pas une nouvelle. Et donc, quand il m'a demandé de participer à cette anthologie, je n'écris pas de fantasy, du moins la fantasy urbaine plus que la fantasy classique. Je n'aime pas trop les dragons, je connais assez mal cette symbolique. Et j'ai repris cette histoire, alors effectivement, près de peut-être 10 ans, 8 ans, même. Oui. Plus tard, ça n'était pas une nouvelle. Comme Pierre, je pense que c'est déjà une nouvelle chez moi, je participe surtout à des anthologies depuis quelques temps. Et je l'ai réécrite complètement en gardant donc, cette histoire de grimpeuse qui doit aller chercher des pierres précieuses et qui doit passer un jour un rite pour devenir vraiment grimpeuse et faire partie du dragon, le dragon étant cette caste. Et le rite consiste à apporter une pierre particulière ou accomplir un exploit et elle décide d'aller chercher un dragon de légende. Voilà, qui s'appelle l'Esperio et qu'elle trouve, vous verrez. Voilà, donc c'est à l'origine une belle rencontre et puis une boucle bouclée, voilà, et la preuve encore qu'on n'écrit vraiment pas de la même façon avant une publication, après des conseils, dirigés, pas dirigés.
Voilà. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, en dehors des personnages et de toute l'histoire que tu décris, c'est qu'il y a un environnement très particulier que tu places avec justement ces montagnes, ces dragons qui sont dans les cimes en fonction des différentes montagnes. Est-ce que le traitement est différent quand on écrit pour de la fantasy ou pour du fantastique, par exemple, dans la manière de planter le décor ou
Complètement, parce que déjà, on n'est pas dans la peur. Donc, on n'est pas dans cette psychologie de la peur, on est dans autre chose. Pour moi, évidemment, dans l'action. On ne plante pas du tout le décor de la même façon, surtout quand on a un personnage qui est un personnage d'action, qui est quelqu'un qui passe son temps à monter, à descendre, et à travailler de ses mains aussi. Donc, non, ça n'est pas du tout le même traitement, ni dans le vocabulaire. J'ai dû vraiment me forcer à enlever des verbes d'action assez simples, parce que parfois c'était une liste, en fait, du coup, comme je ne suis pas habituée à la fantaisie. Et à l'inverse, de ne pas rentrer dans des procédés propres ou fantastiques, comme un point de vue interne vraiment très pointu, exacerbé, et énormément d'éléments psychologiques.
Voilà. Et du coup, est-ce que tu aurais envie de renouveler l'expérience en écrivant de la fantasy maintenant?
J'attends les retours. Oui, peut-être différente. Là, ça se prêtait à l'action et à une histoire d'amour aussi. Et voilà, mais je pense que j'y ajouterai de la poésie, ce qui ferait peut-être le lien avec la forme fantastique que j'aime en tout cas. Mais pourquoi pas?
D'accord.
Pas un déclic en soi, parce que j'en écrivais déjà un peu avant. Oui. Mais en tout cas, c'était agréable de trouver cette fantaisie très classique, originale.
Merci beaucoup.
Merci. Je vais me tourner maintenant vers Adrien Thomas. Donc on a effectivement l'expression consacrée parle de la génération montante de la fantaisie, mais là c'est même couronné quasiment d'entrée, puisque, rappelons-le, tu as reçu le prix Imaginal de cette année pour ton premier roman, L'âge du sixième royaume. C'est ton premier roman. Si je ne me trompe pas, c'est même ta première publication. Ouais. Alors, tout simplement, première question, quel effet ça fait d'être sollicité pour l'entrée des Imaginales?
Ça fait bizarre. C'est... c'est un honneur, parce que j'étais au courant qu'il y avait des anthologies avec des bons auteurs, des auteurs reconnus. Et du coup, qu'on me propose comme ça, depuis tant de temps, est-ce que tu fais partie de l'anthologie, c'était... j'ai regardé derrière moi pour savoir. C'est sûr, avant tout ça. Donc évidemment, ça m'a fait très plaisir, et tout de suite, je suis rentré dans le jeu, tout de suite, ça m'a inspiré directement, en fait.
Alors, donc, t'as publié donc, L'âge du sixième royaume, qui est un roman. Est-ce que tu es aussi un auteur de nouvelles? Est-ce que c'est une forme qui te sent à l'aise? Est-ce que tu ressens les deux formes différemment? Est-ce que tu as une façon différente de travailler?
Oui, complètement. Il n'y a qu'à voir la tête de L'âge du sixième royaume. C'est un gros pavé écrit petit, ce qui veut dire que j'ai tendance à rentrer dans le détail, à bavarder beaucoup. Et du coup, la nouvelle, c'est une contrainte. Il faut que je sois court et il faut que je sois précis. Il ne faut pas que je parte dans tous les sens, ce qui est difficile. Que je suis un peu chaotique et que j'ai tendance à partir dans tous les sens. Donc il a fallu que je mette des barrières, que je dis, il faut pas que tu dépasses tant de pages, il faut que tu ailles directement au sujet, il faut pas que tu t'amuses à faire des détours comme tu fais d'habitude. Mais au final, j'ai trouvé ça agréable aussi d'écrire des nouvelles. C'est un exercice que j'ai pas trop l'habitude d'accomplir. Mais ça m'a bien plu, je me suis bien amusé. C'est sympa.
Alors, parler aussi un peu de technique d'écriture. Souvent aux Imaginales, il y a pas mal de jeunes auteurs qui aspirent. Est-ce que levez éventuellement la main s'il y a parmi vous des gens qui écrivent et qui... Si je vais faire un flop, il n'y a personne qui lève la main. Y a-t-il des aspirants écrivains parmi vous, auteurs?
Ah, osez,
n'hésitez pas.
Quand même.
Oh, ok. Alors, Adrien, donc, L'âge du sixième royaume, c'était ton premier manuscrit ou,
J'en ai écrit d'autres avant. Ouais. Moins des manuscrits moins aboutis, qui étaient plutôt partis sur la fantaisie humoristique, que j'écris vraiment pour m'amuser, en fait. Et L'âge du sixième royaume, c'était là où j'allais quand j'étais pas d'humeur à écrire de la fantaisie humoristique, et j'écrivais de la fantaisie sérieuse, un plus sérieuse en tout cas. Et c'est là où je me suis réfugié, on va dire, quand j'ai débarqué pour la première fois en Lorraine. Alors il paraît que j'ai pas le droit de dire qu'il fait froid en Lorraine. Désolé. Il faisait très très bon en Lorraine, grand soleil, tout ça. Mais du coup, j'en ai profité pour écrire, parce que j'étais un peu tout seul, un peu dans le froid, dans la chaleur polaire de Lorraine. Voilà. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire quand j'étais à Metz, quand je faisais mes études à Metz. Et je me suis plongé dedans, à la base, plus pour m'évader que pour vraiment écrire. Et au final, ça a fini par donner quelque chose.
Est-ce que tu aurais quelques, éventuellement, pas forcément, hein, mais est-ce que tu aurais quelques pensées ou idées à partager sur la façon dont on passe justement de j'écris en Lorraine, où il fait chaud et beau, et en gros, j'ai tout le temps du monde pour écrire mon roman, et finalement, j'écris un peu pour moi. Comme tu l'as dit, je travaille sur le thème que je veux, je reçois une contrainte, un thème imposé, et j'ai une date limite qu'il faut que je respecte. Comment est-ce que tu as vécu ça différemment, et comment, et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui suit tes pas?
J'ai vécu différemment, mais j'avoue que j'avais l'habitude, parce que quand j'étais petit, je me vantais un peu, j'étais toujours premier en rédaction. Voilà. Donc avoir les sujets imposés, devoir écrire en imposé sur un sujet donné, j'ai toujours... bien vécu ce genre d'exercice, donc c'était un peu, j'ai l'impression de revenir au collège, c'est un peu péjoratif, mais donc c'était un sujet, tu fais sur le sujet, tu travailles sur le sujet, tu as un rendu à faire, donc je l'ai fait, vite, rapidement, et, mais effectivement il faut, à mon sens, c'est vrai que écrire pour le fun, pour vraiment s'amuser, pour s'évader, c'est vraiment du loisir, alors que avoir des contraintes, ça reste de l'écriture au final, donc je suis pas sûr qu'il y ait énormément de... soit pas si difficile que ça en fait. Il y a un peu plus de contraintes, c'est-à-dire qu'on va moins partir dans les détails, mais au final, il faut juste se dire... je pense qu'il faut plus facilement fixer une fin quand on écrit une nouvelle que quand on écrit un roman, en fait. Quand on écrit un roman, on se dit qu'il y a vaguement la fin au fond, là-bas, et on finira bien par y arriver un jour. Et tandis que la nouvelle, il faut que la fin soit là. Donc on a une distance plus courte à partir de là. Ouais, il faut que la chute soit déjà prévue à l'avance, on peut partir à la vague.
Alors pour aller dans l'anecdote, effectivement, Adrien nous a beaucoup surpris parce que on avait donc lancé notre petit appel à texte, contacté les auteurs, donc on lui envoie un mail et le lendemain ou le surlendemain, on reçoit le texte.
Non mais il ne faut pas faire ça.
Donc On s'est contacté avec l'année, attends, mais.
Casse les autres.
Qui est ce garçon?
Tu casses le métier, là, totalement.
Désolé.
Donc voilà, c'est ce qui nous était jamais arrivé avant, mais. Voilà, mais j'ai compris maintenant, c'est à cause des rédactions que voilà. Tu as fait quand tu étais petit. Voilà. Bien. Je vais me tourner vers Mathieu. Donc Mathieu, toi, ton texte est d'une veine complètement différente, puisque là, on est plus vers de la fantaisie urbaine, avec un petit côté surréaliste, avec de la métaphore, avec... c'est un texte qui n'est pas classique. Est-ce que tu peux nous parler justement de la façon dont toi, tu as traité le dragon et la reine ?
Ok.
Ok.
Moi j'ai surtout voulu parler de deux choses. J'ai parlé d'une chose, c'est l'inspiration. C'était vraiment le sujet au cœur de cette nouvelle. Je suis d'accord avec vous, je trouve que la nouvelle est un exercice très compliqué, enfin, pour moi en tout cas, parce que tu le disais, c'est justement, il faut une fin. Et moi je suis plutôt de l'approche surréaliste où on va laisser les personnages ou l'histoire grandir elle-même, vous allez la regarder, et quasiment vous mettre dans un état extérieur, vous mettre dans un état qui est extérieur à l'histoire, pour la regarder grandir vous-même. Et ça, et dans la nouvelle, c'est pas possible. Vous n'avez pas cette place, vous n'avez pas cette temporalité. Et bref, et donc, pour cette nouvelle, j'ai voulu parler de la page blanche, j'ai voulu parler donc du moment où on est terrifié en tant qu'auteur face à une page blanche. Et c'est quelque chose que j'ai vécu, et j'ai essayé d'en parler d'une manière ou d'une autre ici, parce que il y a une chose qui est très frappante, c'est que quand vous êtes auteur et que vous avez des idées, ça ne suffit pas pour écrire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tous les univers du monde. Moi, j'ai des dizaines, voire maintenant des centaines de cahiers qui s'entassent, mais ça ne fait pas un livre. Vous pouvez avoir des milliers de personnages, avoir des milliers de lignes, d'univers, des choses comme ça, mais tout ça, finalement, ne sert à rien. À compter du moment où vous êtes devant votre feuille, alors je parle de page blanche pour on est dans l'image, on voit l'image, mais devant l'ordinateur ou peu importe, mais ce moment crucial où vous faites un choix, et c'est le choix de l'histoire, c'est ça c'est faire un choix, de toute façon c'est toujours dur, et c'est bien ce qui sépare les enfants des adultes, mais je crois que c'est aussi chez un auteur, c'est fondamental, c'est-à-dire à un moment où vous dites, cette histoire-là, il n'y a que maintenant, je vais la raconter de cette façon, il n'y en aura plus d'autres après. Alors on peut écrire le même roman. Toute sa vie et jusqu'à sa tombe, mais c'est pas très intéressant, enfin je pense. Donc voilà, et c'est ce choix-là que je trouve crucial. Donc la nouvelle parle de ça et parle des muses, parce que moi tout de suite quand on m'a parlé de reine, j'ai pensé à ça, j'ai pensé à une force inspirante, parce que c'est les femmes qui m'inspirent, et donc là c'était une manière de le dire. Et je trouve intéressant de faire un effet miroir, c'est-à-dire de dire c'est cette muse-là finalement qui se cherche aussi. Je voudrais que les muses aient le droit de créer à leur tour. Qu'elle est une sorte d'éveilleuse en fait, qui est une sentinelle du rêve dans le monde contemporain, dans le monde tangible, qu'elle soit confrontée comme ça à un auteur en souffrance, et par effet de miroir finalement ce soit elle qui se révèle et qui abandonne son rôle de sentinelle pour se consacrer elle à la création. En fait. Voilà, c'était ça les enjeux, la nouvelle.
Et alors bon, évidemment, la question qui tue, que je t'ai posée tout à l'heure, et où tu m'as fait une réponse, où ça, j'étais clouée de honte, parce que je n'ai même pas pensé. Pourquoi ce titre en anglais, Under a Lilac Tree? Parce qu'il y a des gens qui vont s'interroger.
Alors c'est pour avoir l'air cool, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est fait. Mais au-delà de ça, c'était surtout une référence donc, à une chanson de James Buckley, et qui est en résonance avec le thème, et je pense que si d'aventure vous étiez... intrigué ou intéressé à la lecture, je vous invite à écouter la chanson. Ça sera sans doute le mieux pour comprendre.
La chanson de qui ?
De Jeff Buckley.
Et tu l'as écouté quand tu étais en train d'écrire ?
Je l'ai écouté avant et après, mais pas pendant.
D'accord. Très bien.
Parce que je l'engage. Je l'engage. Donc, question qui s'adresse certainement plus probablement plus à Chantal et à Mathieu. C'est que il y a dans des veines différentes, mais je trouve qu'il y a dans la forme quelque chose qui rapproche un peu vos deux textes. C'est véritablement le jeu créatif sur la langue, plus dans avec la contrainte oulipienne dans le cas de Chantal, avec une utilisation très créative de la langue, poussée un jeu sur les mots dans ton cas, Mathieu, qui repousse véritablement leurs limites. Et finalement, parfois, on a l'image de la fantasy comme étant, voilà, parfois, une des icônes de fantasy, il faut quand même le dire, c'est Conan. Donc, c'est quand même un peu à l'opposé de ce genre de choses. C'est parfois, la fantasy est considérée comme une littérature un peu bourrine. Or, non. Et donc, c'est une littérature qui, effectivement, peut avoir une forme et une grande exigence littéraire qui va jusque au jeu sur la forme. Et en fait, j'aurais aimé que l'un puis l'autre vous... éventuellement, vous disiez quelques mots sur en quoi vous trouvez que c'est intéressant de travailler sur cet aspect littéraire. Est-ce que c'est constitutif, finalement, de l'imaginaire? Est-ce que ça permet de porter votre imaginaire plus loin, à la fois dans votre aspect de création et pour vous, si vous pensez que ça porte le rêve encore plus loin, le rêve de l'imaginaire, pour le lecteur?
Alors, pour moi, oui, parce que chaque fois que je commence un texte dans lequel je décide, personne ne m'impose quoi que ce soit, je décide de mettre une ou des contraintes, je me dis, voilà, je vais voir où je vais aller. Et où je vais aller, c'est pas où sera la fin, comment sera la fin, ça, j'ai aucun problème de ce côté-là. C'est voir dans quel registre de vocabulaire je vais entrer. Est-ce que le fait d'enlever un A va m'obliger à tel ou tel type de registre de langue? Ou est-ce que le fait... Pardon ?
T'as balancé ton truc.
Non, j'en ai d'autres, ne t'inquiète pas. Et si je fais un bivocalisme en E et en U, est-ce que j'arriverai à le croiser avec le vocabulaire archéologique ? Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse d'abord. Le contenu vient ensuite. Bien entendu, c'est pas juste aligner des mots, prendre des dictionnaires pour le plaisir de prendre des dictionnaires ou d'aligner des mots. J'ai fait une fois un Cendrillon où j'ai repris le texte de Perrault à la virgule près, mais vraiment c'est Perrault, sauf que j'ai remplacé tous les mots pertinents, c'est-à-dire les substantifs et donc les adjectifs pour la plupart, mais enfin pas systématiquement, tous les mots pertinents ont été remplacés par du vocabulaire d'astronomie. Donc ça veut dire aller creuser, chercher dans des dictionnaires d'astronomie. Bon, c'est un vocabulaire que je connais quand même, sinon je n'aurais pas été choisir. Bon, je ne suis pas maso, je n'aurais pas pris de la iotique, je n'y connais rien. Bon, mais enfin, les dictionnaires sont faits pour s'en servir. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est travailler la langue et voir où je peux moi aller et où le lecteur peut me suivre, parce que bon, ce n'est pas non plus un jeu gratuit. Jusqu'où je peux aller en racontant une histoire qui soit une nouvelle, mais qui respecte des contraintes. Et je dirais, plus il y a de contraintes, enfin j'en bourre pas 50 par texte, ça serait idiot, quand il y a deux contraintes croisées, ça stimule l'imagination. C'est même pas l'imagination, j'ai pas de problème d'imagination, je peux écrire un texte banal avec de l'imagination, c'est surtout que ça stimule l'inconscient. Il y a des choses qui arrivent, auquel on ne se serait pas attendu. Quand j'ai commencé Les Dragons dont nous venons de parler, je ne pensais pas du tout à Riquet à la houppe. Donc voilà, je dirais que le texte à contrainte pousse à faire surgir en soi, enfin de soi, des choses qu'on n'aurait pas forcément consciemment eu envie de mettre. On m'arrête là parce que je parle 4 heures.
Alors moi c'est tout le contraire, c'est-à-dire que je serais bien incapable d'avoir cette approche-là, et je pense que c'est, on me dit souvent que la liberté c'est les règles, moi pas du tout, enfin je n'y arrive pas en tout cas, et j'aurais surtout pas le bagage, mais ça serait très castrateur chez moi. Moi ça me renvoie en fait à une chose, c'est à Monsieur Poil, qui était les histoires que me racontait ma maman quand je m'endormais le soir, elle me parlait d'un Monsieur Poil, oui. Et en fait on était dans la création instinctive. Donc c'était une projection, mais dans l'instinct le plus pur de l'onirisme. Et ça, je trouve que c'est...
Mais donc c'est aussi l'inconscient.
Oui, mais si tu veux, il y avait aucune... comment dire ça? C'est-à-dire qu'il n'y avait à aucun moment... Enfin, moi, je ne sais pas, ce que me dit Lionel, par exemple, sur l'écriture, je l'apprends, quoi, parce que il n'y a pas du tout... Non, mais c'est vrai, honnêtement, tu vois, je ne travaille pas l'écriture à dessin. Donc tout ça est très instinctif. Moi, j'écris avec le bide. Si ça se révèle comme ça, c'est oui. Faudrait que j'en parle à un psy, tu vois, ou quelque chose comme ça, ou à Monsieur Poil. Moi, ça me renvoie surtout là-dessus, c'est-à-dire cette écriture qui doit jaillir en fait comme une source vive et qui doit surtout s'imposer des contraintes après, parce que à moins d'être un génie absolu, je trouve pas qu'un texte soit intéressant au premier jet. Il dit énormément de choses. Je pense qu'il est vrai. Après, il y a, il y a de l'expertise, il y a un savoir-faire qui fait qu'on rend un texte aussi plus lisible, on le polie pour le rendre plus agréable, quoi, plus limpide. Mais je trouve que la vérité qui vient au premier jet, on me l'a souvent reproché, parce que j'ai eu la bêtise, moi, de réécrire souvent des romans pour des versions de poche, de reprendre les mêmes versions et les réécrire. C'est une énorme bêtise. Il ne faut jamais faire ça, parce que, un, vous n'assumez pas ce que vous avez écrit, et deux, vous pouvez faire ça toute votre vie, réécrire un bouquin. Et en fait, chez les Américains, j'ai découvert ça, qu'ils assument très très bien leurs œuvres de jeunesse avec tous ces défauts. Et parfois même, c'est précisément les défauts qui font les aspérités, en fait, de ce que vous écrivez, ce qui font son charme, en fait.
Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Tim Powers, à qui on a proposé de réécrire effectivement ses livres anciens, pour une republication, mais genre 20 ans plus tard, avait dit « j'ai refusé de le faire parce que ça aurait été une collaboration avec moi-même, mais à 20 ans d'écart ».
C'est très beau.
Alors, question aux autres auteurs, mais à laquelle vous pourriez éventuellement répondre aussi. Dans cette anthologie, donc, avec cette confrontation de reines et de dragons divers et variés, on constate qu'à de nombreux niveaux, on a des trahisons, on a des affrontements... on a du bien, on a du mal, enfin des choses qu'on retrouve très souvent dans la fantasy. Est-ce que vous avez eu l'impression, les uns ou les autres, de faire passer un message à travers ces codes de la fantasy, ou de vouloir dire quelque chose à travers votre texte ?
Je ne sais pas, peut-être oui, ça peut être
Alors, je vais voir reine, pouvoir, trahison, comme c'est étonnant.
Déjà.
Ouais. De jouer avec les codes de la fantaisie sur le. Oui et non, peut-être avec le côté manichéen, effectivement. Moi, j'ai détourné le problème puisque ma reine n'est pas la reine d'un royaume, c'est la reine d'une caste, et en fait, on devient reine quand on survit, en fait. Il y a très peu de gens qui survivent à cette caste et à cette montagne et à ces dragons. Donc j'ai détourné le problème du code de la fantaisie avec le cliché, la reine trahie par son conseil, trahie par son amant, trahie... Voilà, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, même si dans certains textes, ces archétypes ont été utilisés avec beaucoup de talent. Donc ça, je l'ai un petit peu détourné parce que voilà, je partais sur une caste, pas sur un royaume. Mm-hmm. Voilà, ça a été plus facile. Du coup, je suis partie un petit peu sur la trahison sentimentale, affective. C'est ce qui m'intéressait plus dans l'idée d'initiation, parce qu'il y avait effectivement cette petite contrainte de la virginité, et j'avais pas envie d'avoir une vierge de 70 ans. Donc, du coup, j'ai pris un personnage relativement jeune, et du coup, on est resté dans une autre forme de trahison. Voilà, parce que la mienne, de toute façon, est une reine éventuellement en devenir.
D'accord.
Moi, de mon côté, je me suis amusé à détourner certains codes de la fantasy aussi. À la base, dans mon histoire, on commence par une reine qui a l'air. Très cliché, donc la parfaite nunuche en fait, c'est-à-dire une nénette un peu toute mignonne mais qui a rien dans la tête. Et on découvre au fur et à mesure qu'en fait c'est quelqu'un de très manipulateur, très intelligent, très subtil, et qui réussit à manipuler tout son conseil, à faire ce qu'elle veut alors qu'elle est toujours passée pour la jolie arriviste qui a jamais eu grand-chose à faire. Et à côté de ça, j'ai aussi détourné l'image. Moi, je suis parti sur une histoire de chevaliers qui vont essayer de découper du dragon en tranches pour avoir le droit de monter sur le trône.
Et d'épouser la reine.
Le but, c'est que je me suis aussi amusé à détourner les codes des chevaliers grands, beaux, forts, intelligents qui chargent les dragons et qui les découpent en tranches en 5 secondes. Et au final, je suis arrivé à des chevaliers qui étaient un peu stupides, ou un peu aigres, ou un peu méchants, ou un peu peureux, ou très contents d'eux, ou même carrément les clichés de l'amoureux transi. Enfin, je me suis amusé avec tous ces clichés, et je vais pas raconter à la fin, mais j'ai senti de les détourner autant que je pouvais, on va dire. Donc je me suis amusé à détourner des codes de la fantasy.
D'accord.
Putain.
C'est mon
personnage. J'ai un personnage de ce que tu remarques, c'est un vachement basique. J'ai essayé de travailler avec un moitié des mots en moins dans la langue française, mais je suis pas arrivé.
On y arrive.
J'ai dit la moitié des lettres, mais je suis pas arrivé. Et donc j'ai décidé justement de reposer tous les mots qui existent dans le dictionnaire. Et donc c'est vrai que j'ai, en revanche, je joue pas avec la langue, je joue plutôt avec. Je joue pas avec la langue en tant que telle, c'est-à-dire avec les mots et les lettres, mais je joue avec l'écriture. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture, c'est le service de l'histoire. Il est évident que dans cette nouvelle-là, je suis revenu à une forme ultra classique de fantasy, que je ne possède pas du tout, mais je ne sais pas pourquoi je dis que c'est classique. Ouais. Alors que dans les deux recueils précédents, j'avais essayé des formes beaucoup plus détournées, qui étaient la remise en question du bourreau de la victime. Et avant, c'est sur la sorcière, c'était vraiment l'autre perçu comme sorcière, mais qui n'est finalement que vivant. On se poursuit que soi-même finalement. Donc j'avais essayé d'avoir une forme d'écriture un peu différente, mais c'était l'écriture qui était venue spontanément se mettre au service de l'histoire, car oui, pour répondre à la question, j'ai envie de vous dire quelque chose. Je vous envoie un message, un putain de message. Alors, je ne sais pas si c'est très précisément là, c'est à vous, mais il est évident que je n'écrirai aucun texte si je n'avais pas le secret espoir, mais très logique, plus profond de moi, de changer quelque chose dans votre point de vue. En gros, je n'ai pas de solution à vous donner sur rien. Que c'est vous qui fabriquez vos solutions, mais si mon texte vous a invité à changer, à dépasser votre point de vue, j'en serais très heureux. Voilà. Sinon, je ne crois pas que j'aurais le courage d'écrire et de recevoir le cinquième mail de Lionel. Donc voilà, c'est peut-être très bien ce que je dis, je ne sais pas, mais. Il me semble que le métier d'auteur, c'est de plonger dans le grand fleuve qu'on appelle l'humanité, d'en ramener des choses, plonger, alors à s'immerger dedans. Alors là, il faut aller à la conscience dont tu parlais, tout ça, c'est vraiment une plongée dans la conscience, parce que moi, je ne connais pas la fin d'un nouvel avant de commencer. Donc, c'est une plongée pure dans l'inconscient. Aller au fond des choses, utiliser l'écriture comme moyen, finalement, comme vaisseau, et ramener des choses du fond du fleuve et les ramener à la surface, en disant voilà ce que j'ai trouvé. Et jouer, enfin amusez-vous avec, ou essayez, vous voyez si ça veut dire quelque chose, ou voilà. Donc oui, il y a cette notion de je n'ai pas envie d'écrire par pur jeu, je suis peut-être trop triste quand même. si j'ai un jeu à faire, c'est uniquement l'écriture, mais l'écriture c'est vraiment pour accueillir l'histoire au mieux. Donc l'écriture c'est elle qui va se mettre au service de l'histoire, bien que je suis intimement persuadé que chaque auteur a sa propre musique et qu'il ne peut pas en déroger, c'est-à-dire que s'il va à l'encontre de ce qu'il est lui-même, je pense qu'il va à la catastrophe. C'est son point de vue.
Bien, bah, je pense que ça va un petit peu nous servir de conclusion, puisque nous arrivons au terme du temps qui nous est imparti. Ça a passé très vite. Donc je vous recommande tout particulièrement cette anthologie, donc Reines et Dragons. Je vous encourage à aller l'acheter, à rencontrer les auteurs qui vont être en dédicace pour la plupart, sauf s'ils ont des cafés littéraires après celui-ci, donc à la Bulle du Livre. Et je remercie les auteurs présents. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir tous les auteurs de l'anthologie, mais bien évidemment, il y en a dans la salle. Nous avons Mélanie Fazi, Nathalie d'autres très probablement, ou si elle n'est pas dans la salle, oui, elle est là. Je suppose que j'en oublie. On aurait souhaité avoir tout le monde autour de nous, mais malheureusement, les contraintes faisaient qu'on ne pouvait qu'avoir 5 auteurs. Donc, on a essayé de choisir des un petit peu, un espèce de panel. Donc, on pense aussi très fort à Thomas Géa, qui n'a pas été invité au festival, on aura sûrement l'occasion de le rencontrer à un autre moment. Justine Yogret, qui est ici. Éric Witzel, et Vincent Gessler et Charlotte Bousquet. Donc, qui ont également produit d'excellents textes. Donc on espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à la lire et merci pour votre attention.
Merci.
Merci. Ouais. Bon, ça va, on n'a pas trop ramené tout le monde.